Nous allons dans les Hauts-de-Seine, au tribunal judiciaire de Nanterre, retrouver Paul Conge en direct pour BFM TV, Paul du service police-justice. Interrogatoire imminent pour Patrick Bruel, Paul.
Oui Alain, il y a eu un moment de flottement et d'attente toute la journée, mais ça y est, l'interrogatoire de Patrick Bruel devrait démarrer dans à peu près 45 minutes sur les coups de 17h30 environ. Patrick Bruel, on vient de l'apprendre, est en train en ce moment même de parler avec ses trois avocats, de se préparer donc à cet interrogatoire. Ces avocats ont passé la journée à prendre connaissance du dossier d'enquête. Il n'y avait pas accès auparavant. Dans ce dossier d'enquête, il y a tous les faits qui vont être reprochés à Patrick Bruel. C'est un dossier qui est très volumineux. Donc dans 45 minutes, 4 juges d'instruction, vous l'avez dit, 4 vont interroger Patrick Bruel sur l'ensemble des faits dénoncés par 9 femmes, des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle, mais aussi de harcèlement sexuel sur une période qui s'étale de 2010 à 2019. Bruel a déjà fait savoir qu'il allait répondre aux questions. Et c'est à l'issue de cet interrogatoire, sans doute dans la soirée, que les juges décideront de le mettre en examen ou non pour partie ou totalité des faits qui lui sont reprochés.
Voilà, Paul Conge avec Adrien Fache en direct du tribunal judiciaire de Nanterre pour BFM TV.
Vincent Vantegem, bonsoir. Il a donc passé le chanteur 48 heures en garde à vue. Que sait-on de ces 48 heures? S'est-il montré coopératif? Quelles sont nos infos?
Alors, on ne sait pas grand-chose, il faut bien le dire. 2 jours, 2 nuits en garde à vue, ce qu'on sait pour résumer la position générale qui est la sienne, qu'il avait d'ailleurs déjà développée lorsqu'il a communiqué, vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram notamment, avec 3 pages de communiqué, c'est qu'il conteste toute infraction. Il nie toute infraction sur la litanie, il faut bien parler d'une litanie, de faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Coopératif, on ne sait pas, mais en tout cas, il a répondu aux questions des enquêteurs, il n'a pas gardé le silence. Et du reste, ce qui est notable aussi, Paul Conge l'évoquait à l'instant hein, sur notre antenne, c'est qu'il il l'entend répondre aux questions des juges d'instruction. Ils sont 4 juges à avoir été saisis.
C'est assez rare, 4 juges d'instruction sur un dossier.
C'est assez rare. Et le président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui est venu, puisque je reviens du tribunal, qui est venu se confier à quelques journalistes tout à l'heure, nous disait qu'aussi, vu l'ampleur du dossier, c'est pas anormal de nommer 4 juges parce que il y a énormément de plaintes qui
s'étalent. Il y a combien de plaintes? Parce que sur on entend tout et son contraire, là, précisément. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire sur combien d'affaires?
Alors, on va essayer d'être clair. Au total, il y a à ce stade 26 plaintes qui visent Patrick Bruel. Sur ces 26 plaintes, il y en a 13 qui sont considérées comme étant prescrites. Considérées comme étant prescrites par le parquet. Ça doit faire l'objet d'une confirmation par les juges d'instruction. Donc ces plaintes, elles vont être versées au dossier, mais a priori, elles portent sur des faits qui sont prescrits. Ensuite, le parquet de Nanterre, lui, il a été saisi de 9 plaintes. C'est ça qu'il va déposer, qu'il a déposé ce matin au bureau
des juges. Ce sont ces 9 plaintes là qui sont traitées.
Plus 4 autres qui ont déjà été déposées directement sur le bureau des juges. Donc 13 plaintes qui vont être analysées, examinées. Le parquet requiert déjà la mise en examen pour 9 d'entre elles. Et puis 13 qui sont prescrites et qui vont venir éclairer aussi le dossier.
Vous connaissez bien les affaires judiciaires, vous suivez les dossiers. Vincent Vantegem, la détention provisoire, c'est ce qui semble le plus logique ce soir?
Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question pour 2 raisons. Et vous allez voir, je vais vous l'expliquer. La première de ces raisons, c'est que nous, on n'a pas encore connaissance de tout ce dossier. On ne sait pas exactement ce qui lui est reproché, comment il se défend, à part qu'il conteste les faits. Ensuite, il y a la question de ses garanties de représentation. Est-ce que il va devoir pointer au commissariat s'il est laissé libre toutes les semaines, tous les mois? Est-ce qu'on va le laisser se produire sur scène? Ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Certaines plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits en marge de ces spectacles, dans les loges, dans les coulisses, dans un salon de massage à côté de sa salle de spectacle. Et donc, on va éviter la réitération des faits. Pour ça, on a 2 solutions. La première, c'est de le placer en détention provisoire. La seconde, c'est de lui mettre un contrôle judiciaire qui lui interdit de se produire sur scène. Donc, il y a ces 2 options sur la table, avec au-dessus, comme un nuage qui plane, on pourrait dire, l'actualité, les faits récents de l'actualité, les attaques sur les juges. Évidemment, les juges se fondent sur le dossier, sur la personnalité.
Ça peut peser le contexte actuel.
Les juges ne sont pas hermétiques à ce qui se passe dans l'opinion.
Avec, entre guillemets, l'envie d'en faire un exemple?
Non, pas d'en faire un exemple, mais de prendre aussi en compte ce qui est dit dans l'opinion publique, de prendre aussi en compte le risque de trouble à l'ordre public. On a vu certains de ces spectacles qui ont été perturbés par des manifestantes. Si aujourd'hui, on le laisse libre, en lui permettant de continuer à exercer son métier.
Sachant qu'il a annulé tous les spectacles de cet été.
Maître Lévy, parce que je voyais qui essayait d'écouter attentivement ce que disait Vincent Vantegem. Déjà, la première chose, 4 juges d'instruction pour Patrick Bruel. Vous, l'avocat, qu'est-ce que vous en dites, vu votre expérience?
C'est assez rare. On est en matière criminelle, certes, mais 4 juges, c'est assez rare. Benjamin de Paris, qui est le président du tribunal à Nanterre, manifestement là, veut que ce soit irréprochable.
Et donc on voit bien quand même que l'actualité pèse.
Oui, évidemment, ils sont pas hermétiques et ils ont besoin que leur copie soit parfaite. Bon, normalement, un juge d'instruction aurait pu suffire, sinon trois. Là, ils ont choisi quatre. Ça donne évidemment une ampleur au dossier.
Du coup, là, il y a des moyens.
Là, il y a des moyens.
Oui, on n'arrête pas de dire ces derniers temps que la justice manque de moyens.
Mais le volume de plaintes commande aussi ces moyens-là. Et puis, on peut penser que les juges d'instruction vont se répartir les plaintes et ensuite, en collégialité, vont discuter de tout ça. Bon, ça, c'est quand même le moment de l'instruction qui va s'allonger dans le temps. L'information immédiate, c'est de savoir où il va dormir ce soir.
Oui, alors, fort de votre expérience, selon vous, est-ce que la détention provisoire peut être un scénario plausible ?
Alors, doit répondre à des critères précis, la détention provisoire.
Ça doit répondre à des critères extrêmement précis. Aux yeux du procureur de la République, la détention provisoire, elle est acquise. Il la réclame, et à partir du moment où il la réclame, les juges d'instruction ne vont pas avoir le choix que de saisir leur collègue à l'étage au-dessus, qui est le juge des libertés de la détention. Et qui, lui, ne doit pas s'appesantir sur le dossier, il doit s'appesantir sur des garanties de représentation, c'est-à-dire de savoir s'il y a un risque que Bruel fuit à l'étranger.
Il vit une bonne partie de l'année en Californie.
On sait qu'il a un domicile à Los Angeles. Est-ce qu'il y a un risque que l'infraction se répète ? Et donc, qu'en liberté, demain après-demain, il recroise potentiellement une jeune femme dans des conditions douteuses. Il y a un risque aussi de trouble à l'ordre public, et on l'a vu sur à l'entrée de ces spectacles, des manifestations, jusqu'à hier avant-hier au théâtre. Ces critères-là, et puis de déperdition des preuves,
et de pression sur les
potentiels sur les victimes. Ces critères-là sont les critères du juge des libertés de la détention.
Je peux rajouter un critère, c'est que certaines de ces plaintes, les victimes disent qu'elles ont été agressées dans un milieu professionnel. Donc, est-ce qu'on peut aussi dire à Patrick Bruel, c'est plus possible de monter sur scène et donc d'être potentiellement en contact avec des femmes, quoi.
On peut, le juge des libertés de la détention peut considérer que tous ces critères-là sont réunis pour le mettre en détention et il dormira au cachot ce soir. Pendant
combien de temps ?
Alors, il peut y avoir un mandat de 4 mois, renouvelable, mais la chambre de l'instruction, qui est donc l'instance supérieure, peut aussi corriger ce mandat de dépôt et le faire ressortir plus tôt. Ou alors, il choisit un contrôle judiciaire extrêmement strict, qui peut lui interdire des zones géographiques, Paris, la région parisienne, qui peut lui interdire de se produire sur scène, qui doit lui imposer de venir pointer au commissariat toutes les semaines, tous les mois, quand il le souhaite, de lui retirer son passeport.
Mais s'il y a mandat de dépôt ce soir,
Il dort en prison.
Il n'y a pas d'appel possible.
Il y a un appel possible, mais il ne sera pas examiné demain.
Ce sera à la prison de la santé, au quartier VIP, vraisemblablement.
La logique voudrait que ce soit à la santé,
quand on dit le quartier VIP, façon de parler.
Oui, c'est un couloir de la santé.
Ça n'existe plus, le quartier VIP. On parle du quartier vulnérable. Il y a une autre possibilité.
Aujourd'hui, c'est des cellules rénovées.
Il y a une autre possibilité qu'on n'a pas évoquée, pas mise sur la table. C'est la possibilité de ce qu'on appelle un ARSE, une assignation à résidence sous surveillance électronique, manière de dire, vous n'êtes pas en détention, mais on vous place sous bracelet électronique avec interdiction de sortir à telle heure, de manière à éviter ce qu'on a dit, la pression sur les témoins, le risque de trouble à l'ordre public,
le
risque
de récupération à la maison.
Julia Foyce est avec nous, journaliste, auteur de Pas tous les hommes quand même, aux éditions La Meute. Est-ce que on se plaint régulièrement que la justice tarde à réagir, à prendre la mesure des choses en matière de violence faite aux femmes? Est-ce que là, le fait notamment que 4 juges d'instruction soient mobilisés sur ce dossier, ça y est, enfin, la justice réagit à la hauteur des événements?
Alors, si on compare ce qu'il se passe pour Patrick Bruel sur ces dernières semaines, on se parle pas de plaintes déposées, par exemple, il y a 6 ans et qui n'avaient rien donné, etc. Si on se parle juste de ces dernières semaines, et si on compare à d'autres affaires comme celle de PPDA ou celle de Nicolas Hulot, ça va effectivement beaucoup plus vite. Mais on part de tellement loin en termes de rythme que c'est, je dirais plus, il était temps. Il était temps que ces femmes qui portent plainte soient prises au sérieux. Il était temps qu'on les entende. Et qu'on prenne, véritablement, la mesure des enjeux. Les enjeux, c'est quand même 26 plaintes.
C'est un prédateur, Patrick Bruel ?
Alors, pourquoi je n'aime pas le mot prédateur ? Parce qu'on n'est pas très loin du mot monstre, et que tant qu'on part sur le registre de la monstruosité, on est sur l'extraordinaire. Et tout à coup, il y a une espèce de fascination et de répulsion, c'est les deux mouvements, qui agissent encore plus fort quand ces hommes-là sont issus du show business. Il y a une espèce de façon d'imaginer que finalement, il y a des prédateurs isolés qui évoluent dans des milieux de toute façon viciés, vicieux, dégueulasses, et que ça se passerait là. Et à nouveau, on a, comment dire, la tentation très très grande de mettre ces affaires-là loin de nous. Comme si c'était pas une société qui tout entière avait été bâtie sur des siècles et des siècles de violences faites aux femmes et aux enfants. Donc ce mot-là, je l'emploierai pas. Je parlerai plutôt si ces plaintes sont avérées. Alors moi, je considère que dans la mesure où on n'a aucun intérêt à porter plainte parce que on en prend quand même plein la gueule, on dépense énormément d'argent pour qu'à l'arrivée, selon toute vraisemblance, 94% dans 94% des cas, la plainte soit classée sans suite. Ouais. Si on y va, c'est qu'a priori. On a de quoi. 26 plaintes, oui, ça nous fait un violeur en série. Mais même cette expression-là, parce que tout à coup, moi, quand je vous dis ça, j'ai des images de séries télé, donc ça me va pas non plus. Je pense que le violeur à grande échelle, on peut dire ça comme ça.
Violeur à grande échelle.
Ouais.
Présumé innocent.
Mais bien sûr.
Oui, parce qu'il nie les faits. Hein. Il nie d'ailleurs les scènes décrites telles qu'elles ont été.
Non, mais il faut quand même le dire aussi. Hein,
bah, bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est de voir, d'écouter les plaignantes avec vous, Maëlle Genton, parce que vous êtes reporter Ligne Rouge, vous êtes réalisateur de l'enquête Patrick Bruel, La chute d'une icône, et vous avez rencontré ces plaignantes, justement.
Oui, justement, on en a rencontré plusieurs de ces plaignantes, et ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer leurs points communs. En fait, assez plaignante. On remarque que la majorité des faits, par exemple, ils sont effectivement soit au domicile de Patrick Bruel, donc soit à Neuilly ou à Lille-sur-la-Sorgue, soit ils sont dans des cabines de massage, donc ça c'est l'affaire des masseuses, notamment en 2019, soit en coulisses. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est que ces femmes, elles sont souvent très jeunes, elles ont 16 ans pour Flavie Flamand, 19 ans pour Philippe Achefer, 22, 26 ans maximum, on va dire, et souvent, elles ont aussi, elles, peu de pouvoir, c'est-à-dire que ce sont des attachés de presse, effectivement, des masseuses, des stagiaires. Ce ne sont pas des femmes de pouvoir à cette époque, donc il y a quand même un ascendant que Patrick Bruel aurait exercé en tout cas sur elles. Je vous propose par exemple d'écouter le témoignage d'une d'entre elles que l'on a réalisé récemment. Elle avait 22 ans à l'époque des faits qu'elle décrit, c'était en 1992, et elle s'appelle Sabine Langaret. Je vous propose de l'écouter.
Mais elle affirme s'en souvenir comme si c'était hier. Sabine Langaret raconte qu'en coulisses, alors qu'elle était éclairagiste lors du tournage d'une émission de télévision au Bataclan, Patrick Bruel se serait jeté sur elle.
On est dans un coin sombre du Bataclan qui est derrière un rideau de scène et il me colle au mur, il se serre contre moi, il m'embrasse comme un fou dans le cou et quand il se serre, je sens son érection contre mon corps et là je le repousse et je lui fais « Mais enfin, cher ami, que se passe-t-il ?» Il s'arrête, il est décontenancé et il me fait ben, « Je sais pas, j'ai vu ton cou, il était joli, j'ai eu envie de l'embrasser. Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie d'embrasser un cou ?»
Le chanteur se serait alors éloigné avant de revenir la saluer.
Il m'a dit « Au revoir, joli cou, beau cou, bon cou. » Et il est parti. Je n'étais qu'un objet, je n'étais qu'un outil en fait pour son plaisir.
Patrick Bruel, c'est l'homme de visage, en fait, quoi. C'est ça.
En tout cas, c'est ce qu'elle décrivait. Effectivement, un homme qui, d'un côté, est affable, disponible, blagueur, accessible, presque trop accessible par rapport à sa notoriété de l'époque. Et puis, elle décrivait d'un coup un changement soudain de comportement, un homme qui, d'un coup, devient incontrôlable, qui se jette sur elle et là, qui a des sortes de pulsions, selon leur témoignage.
Mais ce sont aussi des femmes, à travers ces plaintes, le fait de témoigner à visage découvert, qui se retrouvent aujourd'hui très exposée, Maëlle.
Et en tout cas, c'est ce qui explique peut-être que peu d'entre elles, finalement, parlent à visage découvert. C'est vrai que nous, dans notre enquête, on a eu une certaine difficulté à recueillir certains témoignages, notamment à visage découvert, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, notamment, elles deviennent la cible de moqueries, la cible d'insultes parfois. Aujourd'hui, en fait, pour elles, témoigner face à Patrick Bruel, ça n'a rien du tout d'anodin.
On a l'impression, Julia, que c'est un peu l'ancien monde qui s'écroule là. Alors, on peut citer aussi Bruel, mais on pourrait citer PPDA, Nicolas Hulot, Gérard Miller.
Je vous remercie infiniment pour cette question, vraiment. Parce que je crois que, et c'est pour ça que pour moi, l'affaire Bruel incarne une forme de point de bascule. Parce que je pense qu'il y a quelques temps encore, on parlait de guerre des sexes. Et que, en réalité, ce qu'on dit depuis le début, quand je dis on, c'est plutôt les féministes, en fait, c'est pas une guerre des sexes, c'est pas une guerre des genres, c'est une guerre des mondes. C'est-à-dire qu'il y a un monde dans lequel il y a une organisation sociale qui est pyramidale et qui fait que, il y a une catégorie d'individus qui a des droits sur d'autres catégories d'individus. C'est pour ça que Maëlle parlait de jeunes femmes qui sont pas en position de pouvoir. Le viol est par essence un rapport de domination. Tous les agresseurs, quand ils agressent, sont en situation de pouvoir. Donc ça veut dire que les femmes, plus elles sont précarisé, parce que racisé, parce que handicapé, parce que malade, ou parce que jeune, ou parce que très vieille. Là, elles sont en situation de danger. Parce qu'on est véritablement sur un, sur ce système de domination-là. Il s'agit d'écraser l'autre, et si désir il y a, ça n'est que celui-là, celui d'écraser l'autre. Donc, guerre des mondes, oui, parce que j'ai le sentiment que les femmes s'élèvent, que les collectifs aussi de défense des enfants s'élèvent aussi, que ça va avec tout un, avec une convergence des luttes qui fait que toutes ces minorités-là font corps pour dire ça suffit.
Steven Bellery, que sait-on aujourd'hui de comment vit tout ça Patrick Bruel, de son entourage, de
sa famille,
de son monde à lui qui s'écroule, et notamment de sa carrière qui semble désormais derrière lui?
Il y a un grand point d'interrogation, c'est vrai. On se demande si mardi soir au théâtre, quand le rideau rouge s'est fermé et qu'il n'était pas au courant que c'était la dernière fois qu'il montrait sur scène, ce rideau rouge ne s'est-il pas fermé sur 48 ans de carrière? C'est une possibilité. Il a continué de discuter avec tous ses proches la semaine dernière. Tous ses proches à qui il n'a cessé de dire « j'ai peut-être été lourd, j'ai toujours essayé, mais j'ai toujours accepté un non ». C'est la ligne de défense visiblement qui, depuis lundi matin devant les enquêteurs, il a poursuivi, il a continué de dire, il dit oh, « ça n'est pas toujours blanc, ça n'est pas toujours noir, il peut y avoir parfois une zone grise ». Ça serait sur ces points-là qu'il essaierait de convaincre la justice. Il s'est préparé à une mise en examen, il l'espérait entre guillemets même d'une certaine manière pour pouvoir avoir accès aux plaintes, pour pouvoir accès aux dossiers. Il n'empêche qu'il n'a jamais formulé autour de ses proches avec lesquels j'ai pu échanger une possibilité d'aller en prison, d'être transféré en prison à la suite de sa garde à vue. Peut-être par déni, peut-être par superstition, peut-être par peur, peut-être qu'il l'a quand même évoqué avec ses avocats, en tout cas avec ses amis, il ne l'a pas évoqué. Pour lui, ça serait une humiliation, m'a confié un de ses proches. Et il se dit aussi surtout qu'à la fois une mise en examen, un procès, il pourrait éventuellement le surpasser, une incarcération ou une mise en prison pendant quelques mois, c'est quelque chose qui marquerait le début de la fin de sa carrière.
Maître Lévy, c'est le nombre de plaintes qui ne plaident pas pour lui, j'ai envie de dire. Je me mets à la place des citoyens qui suivent cette affaire et se disent, bon, il y aurait une plainte, deux plaintes, mais là, on parle de 26 plaignantes.
Il y a pas grand-chose qui plaide pour lui aujourd'hui, hein, parce que sa voix n'a pas été entendue. Depuis que ce scandale a explosé, on entend petit à petit les victimes sortir très courageusement et dire ce qu'elles ont à dire, mais lui, on l'a pas entendu. Ses avocats, très peu. On sait qu'il conteste plus ou moins habilement, ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Mais
lui parle de zone grise.
En gros, sa
défense, c'est j'étais lourdingue, mais quand c'était non, j'étais.
C'est-à-dire qu'il y a une gradation des faits. C'est-à-dire qu'il y a cette dame qui raconte qu'elle a été plaquée contre le mur, qu'il l'a embrassée dans le cou. Et puis ensuite, il y a des vraies tentatives de viol, d'agression sexuelle.
Ça, ce qu'elle décrit.
Et donc là, ce sera au juge de démêler tout ça et de faire la gradation des faits.
Juridiquement, ce qu'elle décrit là, c'est une agression sexuelle. Il vient, il se colle, il l'embrasse de force et elle sent son sexe en érection. C'est une agression sexuelle au sens du code pénal. Bon, après, si lui, il
les agressions sexuelles au code pénal ne sont pas toutes punies de la même manière en fonction de la gravité ou autre, j'imagine.
Non, vous avez raison. Voilà. S'il y a pénétration, s'il n'y a pas pénétration, ce sont deux choses différentes. Mais là, on est dans le registre de l'agression sexuelle. Si lui veut invoquer le registre de « j'ai été lourdingue parce que j'ai un peu trop insisté », les juges,
par rapport à ça, ce qu'elle vient de dire, est-ce que un juge peut l'entendre en disant « ça, c'est on est lourdingue ou pas ?»
Mais ça n'existe pas dans le code pénal, le fait d'être lourdingue.
Il y a une appréciation.
Il n'y a pas d'article.
Il y a une appréciation en fonction de la gravité des faits.
Ça me rappelle, c'est d'une certaine manière la défense d'un autre monstre artistique, à savoir Gérard Depardieu, qui lors de son procès, il était accusé d'avoir mis ses mains sur la poitrine de certaines femmes, ses mains sur les fesses, et il a dit, je ne savais pas que c'était des agressions sexuelles. Mais en fait, oui, il faut préciser, il y a un article de loi. Vous parliez du nombre de plaintes aussi. C'est vrai que dans l'esprit des juges, dans l'esprit des magistrats, même du parquet, si vous êtes accusé par une personne, voilà, on va se dire peut-être que cette personne, elle va agir, je ne sais pas, par vengeance, quand vous êtes accusé par deux, par trois ou par 26.
Ouais, c'était ma question.
Vous avez réagi quand je disais justement, il y a le lourdingue, ça n'existe pas.
Non, et c'est en fait, ça fait partie aussi, c'est une culture. Considérer que c'est pas si grave, et heureusement il y a le code pénal qui nous explique que certaines choses sont des délits, voire des crimes. Et en l'occurrence, cette fameuse zone grise, moi j'en ai un peu marre d'en entendre parler, parce que en réalité, exemple tout simple, vous êtes avec un ami chez vous, vous avez faim tout à coup, vous commandez une pizza, vous avez envie d'une pizza, vous dites ça, Ça te dit une petite pizza ? Vous voyez très bien dans son regard s'il en a envie ou pas. Il n'y a pas de zone de zone grise. Vous le savez. Vous savez s'il vous dit « Ouais, ok, on va se prendre une pizza, mais il n'en a pas super envie. » Parce que vous êtes un animal doué d'empathie, donc vous êtes au courant. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous sentez qu'il n'en a pas tant envie que ça. Vous la commandez quand même et vous le forcez à en manger de la pizza ou vous dites « Venez, on fait autre chose. » Donc, en fait, cette zone grise, c'est un argument qui est hyper pratique pour permettre tout et n'importe quoi. La vérité, c'est qu'en face, ils savent.
Mais qui, en droit, n'existe pas. La zone grise n'existe pas en droit.
Voilà. En plus.
Mais est-ce que, on s'interrogeait sur le fait qu'il y a quand même 4 juges d'instruction, qu'il y a eu une accélération dans ce dossier, alors qu'il y a des plaintes qui datent un peu. Est-ce que le témoignage de Flavie Flament a accéléré les choses ?
Nécessairement. Ouais. Nécessairement. Flavie Flament a une voix qui n'est pas la voix des particuliers, des jeunes femmes anonymes, des plaignantes et demain des victimes. Flavie Flament, elle a un écho beaucoup plus important. Donc automatiquement, le dossier a été signalé parce qu'elle lui a donné une ampleur.
Mais vous comprenez que ça peut choquer. Je fais un parallèle avec une autre affaire, l'affaire Liana, où la maman de Rosa, qui n'est pas une animatrice télé, a porté plainte pour sa fille après un viol anal et vaginal, et personne n'a écouté. Ça veut dire que les juges font aussi en fonction de la surface médiatique.
Mais il y a deux façons de voir les choses. D'abord, on peut le déplorer parce que, en fait, effectivement, avant la prise de parole de Flavie Flament, combien d'autres femmes ont pris la parole?
Mais elles n'étaient pas connues.
Sans avoir cette célérité, pourrait-on dire. Et puis, on peut aussi s'en réjouir. Et c'est d'ailleurs elle qui le dit elle-même, Flavie Flament, en disant, je suis content parce que, ma prise de parole, ma plainte,
et d'ailleurs,
a permis ce mouvement. Et il faut quand même préciser que, dans la saisine des juges aujourd'hui, il n'y a pas encore la plainte de Flavie Flament.
Et votre ligne rouge, hein, Maëlle Genton, sera diffusée demain soir. Hein, il faut le rappeler avec ses témoignages, justement, des plaignantes. Patrick Bruel, la chute d'une icône. On va continuer de l'évoquer dans un instant parce que l'interrogatoire commence à peine. Toute la question est de savoir si Patrick Bruel dormira en prison ce soir, sera placé en détention provisoire. Et nous recevrons Maître Gedj Benayoun, qui est avocate d'Ophélie Fachefer, et Karine Wieser, victime plaignante contre Patrick Bruel, victime présumée. À tout de suite. Nous sommes encore là en direct sur l'affaire Patrick Bruel, parce qu'elle est en cours, c'est au tribunal de Nanterre que Patrick Bruel, Vincent Mantinghem, est entendu par 4 magistrats instructeurs. Donc, enfin, l'audition va commencer, combien de temps ça peut durer, sur quoi ça peut déboucher, quoi.
Alors effectivement, il y est, faut quand même savoir qu'il y est depuis 8 heures ce matin, que là il va être conduit au 3e étage dans le bureau de ses fameux...
Mais qu'est-ce qui se passe depuis 8 heures ce matin alors qu'il n'a toujours pas été interrogé par ces 4 magistrats?
Alors ses avocats consultent le dossier parce qu'ils n'ont pas eu le droit de consulter le dossier lors de la garde à vue, et c'est là qu'on va voir tout ce que les enquêteurs ont fait, les éléments de preuve, les faisceaux d'indices. Donc ils consultent tout ça pour préparer sa défense. Dans une dizaine de minutes, on va dire, ça peut encore prendre un petit peu de temps, mais il devrait commencer à être entendu par les juges d'instruction. Première information, selon les informations de BFM TV, il n'a pas prévu de garder le silence. En tout cas, il veut s'expliquer. On le sait, il y a au moins une saisine qui porte sur 9 plaintes. Cet interrogatoire, il pourrait durer une éternité, mais on ne va pas aller au bout de chaque dossier aujourd'hui. C'est-à-dire que les juges vont procéder sur ces 9 dossiers. Ils vont déjà lui demander s'il se souvient des faits et s'il les conteste. Ce qu'on sait, c'est que lors de la garde à vue, il a contesté avoir commis la moindre infraction. Donc, on peut imaginer que cet interrogatoire de première comparution va durer un petit peu de temps, mais il y en aura aussi un autre dans les prochaines semaines.
Mais à l'issue de ce premier interrogatoire, il sera mis en examen ?
Vraisemblablement oui, parce qu'il y a beaucoup de faits. Le parquet dit qu'il envisage sa mise en examen. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, il va descendre de 2 étages pour aller au premier dans la salle numéro 2, où il y aura une audience avec un juge des libertés de la détention qui va juste examiner où Patrick Bruel va-t-il dormir ce soir ? Est-ce qu'il dort en détention, comme le parquet l'a demandé, en détention provisoire ? Ou au contraire, est-ce qu'il est laissé libre sous contrôle judiciaire, avec toute une série d'obligations et d'interdits ?
Justement, avant de discuter avec Maître Gedj Benayoun, avocate de 2 des plaignantes contre Patrick Bruel, on va regarder avec vous, François Gapillon, comment ça s'est passé pour d'autres personnalités qui ont été entendues et qui sont ressorties libres après leur garde à vue. Bonsoir, François.
Bonsoir à tous. Alors, je précise, j'arrive pas avec une liste exhaustive, mais quelques exemples, en effet, qui nous rapprochent de ce qui arrive à Patrick Bruel aujourd'hui. D'ailleurs, je commence avec un autre chanteur qui a fait de la prison, lui, ces dernières années. Jean-Luc Lahaye, âgé de 73 ans, incarcéré pendant 6 mois entre novembre 2021 et mai 2022, détention provisoire et consécutive à sa mise en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se produire sur scène, une interdiction condition qui, depuis, a été levée. Elle a été levée l'an dernier. Passons à Gérard Miller. 77 ans, au moment de sa garde à vue fin septembre dernier, elle avait duré 48 heures, là aussi, à l'issue desquelles le psychanalyste avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 6 femmes et placé sous contrôle judiciaire. Je rappelle, il est laissé libre, mais avec un certain nombre d'obligations ou d'interdictions, en l'espèce celle d'exercer les activités de psychanalyste ou de chroniqueur télé en public. Un autre nom revient beaucoup, également forcément dans le contexte actuel, celui de Patrick Poivre d'Arvor, 78 ans, mis en examen depuis 2 ans et demi pour viol. Des poursuites n'étant pas assorties, avait indiqué à l'époque ses avocates, d'une quelconque mesure de contrôle judiciaire, sachant qu'au total, PPDA est visé par au moins 15 plaintes et plus de 40 femmes ont témoigné auprès de la justice contre lui. L'ancien présentateur n'a pour autant jamais été placé en garde à vue pour ces accusations qu'il conteste. Il avait été entendu en audition libre par la police en 2021. Le cas Gérard Depardieu, à présent, l'acteur de 77 ans sera jugé en appel en novembre pour agression sexuelle sur le plateau du film Les Volets Verts. Il y a un an, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il n'a donc pas fait de prison. Le tribunal avait aussi prononcé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Pour ces faits, il avait été placé en garde à vue en avril 2024. Gérard Depardieu est en outre renvoyé en procès devant la Cour criminelle de Paris pour viol sur Charlotte Arnoux. Concernant enfin l'animateur radio et télé Sébastien Coé, 54 ans, il est mis en examen depuis 2 ans pour viol et agression sexuelle sur 4 femmes. 3 étaient adolescentes au moment des faits. L'instruction se poursuit à l'heure actuelle. Coé a le droit d'exercer ses activités radio et télé, mais sans public.
Merci François Capillon.
Donc Patrick Bruel peut dormir ce soir en prison. Maître Myriam Gedge Benayoun, merci d'être là. Vous êtes l'avocate de 2 victimes présumées de Patrick Bruel, Ophélie et Karine. Ce sont les dossiers qui sont en ce moment étudiés, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a beaucoup de plaintes et de témoignages.
Oui, vous avez raison. Oui, mes 2 clientes font partie des 9 victimes pour lesquelles Monsieur Bruel est entendu actuellement par les juges d'instruction.
Qu'est-ce qu'elle reproche à Patrick Bruel ?
Alors pour Ophélie, c'est viol et agression sexuelle. Pour Karine, c'est tentative de viol.
Elles ont quel âge ? Elles avaient quel âge au moment des faits ? Parce que on voyait tout à l'heure que les victimes de Patrick Bruel, victimes présumées, il faut bien sûr rester prudent dans les termes qu'on utilise, étaient souvent beaucoup plus jeunes que lui. Souvent dans une position sociale inférieure, des attachés de presse, des jeunes femmes, etc., qui se retrouvaient souvent chez lui. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, ce scénario-là ?
Alors pour Ophélie, oui, elle avait 19 ans. Pour Karine Viseur, elle était, je pense, un peu plus âgée, entre 25 et 30 ans.
Comment ont-elles pris le fait qu'il soit là, entendu par des juges d'instruction, et que potentiellement, il puisse éventuellement être placé en détention provisoire ?
Alors, sur le fait qu'il est entendu par des juges d'instruction et qu'il soit éventuellement mis en examen, pour ce qui les concerne, elles sont extrêmement soulagées.
C'est une première victoire.
Voilà, elles savent que c'est que le début. Elles savent qu'après, on va devoir travailler avec ces juges d'instruction pour que la manifestation de la vérité soit établie. Elles savent ce qu'elles ont vécu aussi, donc elles ont confiance. Pour la mise en détention provisoire, ça ne leur appartient pas. C'est à la justice, c'est ce qu'on dit depuis le début,
mes clients et moi-même.
Alors,
fort de votre expérience.
Matin, voilà. Alors, ce matin, j'avoue que ça a été une surprise pour moi. Mais quand on prend un peu de recul et sur ces dossiers où il y a énormément de victimes présumées, c'est assez courant que le procureur demande une détention provisoire. Assez courant que le juge d'instruction le suive, pas dans 100% des cas, mais assez courant quand on a une pluralité de victimes aussi importante.
Ensuite, est-ce que le juge des libertés peut décider plutôt un contrôle judiciaire strict ?
Alors, le juge d'instruction aurait pu, mais le procureur de la République a décidé d'invoquer dans son réquisitoire un article du Code de procédure pénale qui permet de saisir directement le JLD. Et donc, le JLD, même si le juge d'instruction ne décidait pas la mise en détention provisoire de M. Bruel, ça serait au JLD de décider. Donc, c'est vraiment un signe fort du parquet.
Donc, il y a une volonté du parquet d'en faire un exemple, selon vous. Est-ce que le contexte aussi du moment joue, d'ailleurs, peut-être contre Patrick Bruel? On a vu ces affaires égrenées par François Guépillan qui tardent, où il se passe pas grand-chose, où il y a des mises en examen, des contrôles judiciaires, et puis il se passe pas grand-chose. Là, on a l'impression qu'on veut agir différemment.
Alors, moi, je dirais pas d'en faire un exemple. Je dirais que le parquet de Nanterre a décidé que M. Bruel était injusticiable comme un autre.
Il l'est
Ah oui, bien sûr qu'il l'est.
Mais quatre juges d'instruction, c'est beaucoup.
Quatre juges d'instruction, c'est beaucoup, mais
c'est rare.
Je pense que le parquet s'attend à énormément de plaintes.
Et en plus de celles qui sont déjà instruites.
En plus de celles qui sont déjà sur son bureau, de celles qui sont prescrites mais qu'il faut étudier. Pour avoir des personnes qui me contactent, je sais qu'il va y en avoir d'autres.
Il y a deux plaintes qui vont arriver.
Voilà, deux plaintes de ma consoeur, une de moi-même, que je dois déposer très, très prochainement. Donc, ils savent parce que, enfin, quand on entend la presse, quand on entend les personnes, tout le monde dit oui, on savait, oui, ça devait arriver.
C'est vrai qu'il y a des plaintes qui pourraient arriver de l'étranger aussi.
Il y a des plaintes qui arrivent de l'étranger, puisqu'aujourd'hui, il a déjà.
On sait
dans le dossier, il y a une plainte donc de ma cliente qui arrive de Belgique.
De Belgique, oui.
Et celle de Suisse où une transaction avait été établie entre le procureur, la victime et M. Bruel.
Et d'autres pays.
Une transaction financière.
Et en marge d'un festival, du Paléo Festival de Nyon.
Exactement. Et malgré cette transaction financière, comme il y a eu une plainte en France, le procureur de la République s'en est saisi.
Et vous disiez, sauf erreur de ma part, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte que la justice ne va pas non plus considérer des signalements et des victimes vont pouvoir aussi se signaler auprès de la justice, je crois. Et ça rentre aussi, d'une certaine manière, dans le dossier.
Exactement, vous avez parfaitement raison.
Patrick Bruel est injusticiable comme les autres. C'est une personnalité qui, pendant longtemps, très longtemps, comme le disait Steven, a su qu'on ne lui avait jamais dit non. Aussi, c'est la fin de l'impunité pour toutes ces stars.
C'est ce que j'appelle de tous mes voeux. On peut comparer cette affaire à celle de M. Patrick Poivre d'abord, où on a tous été offusqués de ce qui s'est passé. Pas de mise en garde à vue, pas de contrôle judiciaire, alors qu'il est mis en examen devant des juges d'instruction. Énormément de victimes et de plaignantes. Et l'opinion publique avait été extrêmement choquée. Que cela se passe comme ça.
Donc là, il y a un changement quand même.
Voilà, je pense que pour Monsieur Poivre d'Arvor, son statut y a fait. Ça, c'est mon avis personnel.
C'est au même endroit. L'affaire Patrick Poivre d'Arvor, elle est instruite à Nantes.
Voilà, mais encore une fois, je ne connais pas le dossier. Et là, c'est uniquement ce qu'on peut entendre de la justice et de l'opinion publique. En ce qui concerne Monsieur Bruel, je crois qu'il arrive à un tournant. Où on est effectivement dans la fin de l'impunité, quel que soit le justiciable, comme on peut l'avoir dans d'autres pays, et qu'on n'a pas chez nous, malheureusement.
Est-ce que la prise de parole de Flavie Flamand a aussi accéléré les choses ?
Oui, énormément. Je pense que, vous savez, on dit le pot de terre contre le pot de fer. Flavie Flamand, c'est aussi un pot de fer. Et donc, elle s'est mise en rempart devant les victimes.
Il est présumé innocent, Patrick Bruel.
Bien entendu, comme Monsieur Poivre d'Arvor d'ailleurs.
Et il conteste le fait. Il faut vous rappeler, en tout cas, les informations qui nous viennent, c'est qu'en garde.
Mais là, il ne remontera plus sur scène là pour le moment, plus de festival.
Donc, à l'heure où on parle, sa tournée du mois d'octobre
est toujours. Oui,
il repart dès le 2 octobre.
Ça vous.
Sauf aujourd'hui, c'est lui qui a annulé. La justice n'a absolument rien demandé.
Mais vous seriez choqué qu'il remonte sur scène.
C'est comme la mise en détention provisoire, c'est pas aux victimes de se prononcer là-dessus, c'est à la justice. Moi, vraiment, mes clientes, elles veulent être dans ce processus judiciaire, elles ont passé l'enquête préliminaire, aujourd'hui il va y avoir un juge d'instruction, il faut absolument travailler à charge et à décharge. Il faut qu'on ait rien à se reprocher d'un côté et de l'autre. Donc, c'est à lui et à sa conscience de savoir s'il doit remonter sur scène.
Une dernière question sur sa famille. Elle le soutient, Steven ?
C'est ce qu'on me dit. Il aurait toujours le soutien de ses intimes, de sa compagne Clémence, de son ex-femme, l'écrivaine Amanda Sterz, de leurs deux enfants, Oscar et Léon. Léon Esby, qui d'ailleurs débute une carrière d'artiste et montera sur scène le 26 juin prochain dans un festival au Sable d'Olonne.